Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour écrire avec vous une nouvelle page de cette libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour parler de vous, de votre vie. Alors je sais que vous êtes très nombreux à écouter et à ne pas oser franchir le pas en nous appelant. Alors n'hésitez plus car j'aurai plaisir à discuter avec vous de toutes choses. Même si cela vous semble difficile de franchir le pas et de composer notre numéro de téléphone, quelquefois le fait de parler, d'avoir aussi un autre point de vue, ça fait du bien. Ça ouvre des portes vers de nouveaux chemins. Alors lancez-vous, appelez dès maintenant le 3921. Venez me parler de vos problèmes, de tout ce qui vous complique la vie au quotidien, tout ce qui fait des nœuds. Ensemble, nous allons démêler les fils pour vous aider à retrouver une vie plus douce et plus sereine. La lumière est baissée, votre fauteuil est prêt. Il ne vous reste qu'à composer le 3921 pour me rejoindre. Au standard ce soir, vous retrouverez Hassan et Oscar qui vous accueillent avec beaucoup de gentillesse. Et celui qui réalise cette émission, c'est Benoît. 3921 donc pour nous appeler, vous savez que vous pouvez témoigner, réagir aussi par SMS, apporter un soutien, un conseil, une idée, en tapant le 739-21 et en commençant bien par le mot nuit. Je me ferai un plaisir de lire vos messages à l'antenne s'ils peuvent aider. 3921 donc pour le téléphone, 739-21 en commençant par le mot nuit pour les SMS, et vous avez bien sûr les mails libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel ce soir, c'est celui de Léa. Bonsoir à vous, Léa.
Bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue sur cette libre antenne.
Merci beaucoup de prendre mon appel. Je suis un peu émue de parler à l'antenne. On vous a indiqué l'objet de mon appel.
Alors, on m'a dit que vous avez écouté le témoignage de Nadine hier soir.
Oui.
Et que ça a fait un petit peu écho à votre propre histoire.
Peu,
alors
oui.
Nadine, je vais juste me permettre de résumer pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir. Elle a un fils de 32 ans, je crois, de mémoire. 31,
oui.
32 ans et qui, a priori, serait diagnostiqué schizophrène ou bipolaire, mais en tout cas qui ne se prend pas en charge, avec qui elle est en conflit permanent. Et elle avait beaucoup de mal à trouver la bonne distance à prendre par rapport à lui.
Oui, c'est un peu...
C'était un peu ça, son histoire.
Oui, donc moi, j'ai aussi... Et est-ce qu'on vous a donné, moi, le problème ?
Non, mais on est à l'antenne pour ça, Léa, c'est pour que vous me racontiez vous-même.
D'accord. Je pensais que la personne que j'avais eue, vous avait donné une fiche pour résumer un petit peu de quoi il s'agissait.
J'ai toujours deux lignes, juste pour me dire le thème, simplement, voilà.
D'accord. Donc moi, j'ai deux enfants, j'ai un fils de 45 ans, et depuis, ça fait 30 ans... On a des problèmes avec lui, mais maintenant, j'ai perdu mon mari, donc je suis seule à porter ce fardeau, hein, si je puis dire.
Mmh.
Moi, je sais, il a certainement un problème, mais il veut pas consulter. Donc, je sais pas, je résume un petit peu ce qui s'est passé avec lui.
Quel genre de problème ?
Alors, l'adolescence a été très compliquée. Donc... quand il était en primaire, ça marchait très bien. Dès qu'il a été en sixième, c'est plutôt autour de 14 ans que ça s'est accentué les problèmes. Et il ne travaillait plus à l'école, mais il avait quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. Mmh. Et je résume. Et en première, il a voulu arrêter l'école. Il ne voulait plus y aller parce qu'il était mal dans... Il a toujours été mal dans sa peau. Donc il arrête. Et ensuite, alors nous, on lui fait passer son permis de conduire. Enfin, on faisait des choses avec lui pour l'époque, pour essayer de l'aider à trouver éventuellement du travail. Mais bon, il avait pas d'examen, il avait rien. Donc, il a fait l'armée civile parce que c'était encore obligatoire à cette époque.
Mmh.
Et c'est pendant cette armée civile que ça lui a fait prendre conscience qu'il n'avait pas de diplôme, qu'il n'avait pas de bagage et qu'il allait avoir du mal à s'en sortir dans la vie active. Et donc, il avait repris... En parallèle avec son armée civile, il avait repris des études pour passer un équivalent de bac qu'il a obtenu d'ailleurs avec mention.
Ah bah très bien.
Et Ah oui, il a fait. Oui, parce qu'il avait quand même d'énormes possibilités, mais il était motivé pour reprendre et ça avait bien marché. Il avait donc fait une formation de bibliothécaire. Parallèle, il était inscrit en histoire de l'art parce qu'il fallait être inscrit dans une matière à la fac. Donc, il a eu son DEUG hein, d'histoire de l'art, son examen de bibliothécaire. Et il a fait aussi une année de licence qu'il a obtenue. Et donc, après, il a cherché du travail. Il a trouvé du travail de bibliothécaire dans une administration.
Oui.
Et comme il a des problèmes de comportement et de relations avec les autres. Il est impulsif, il ne faut jamais le contrarier, sinon il envoie tout balader. À la maison, il était comme ça, donc j'imagine que s'il a eu des problèmes au travail, c'est à cause de ça également. Et l'année dernière, oui, c'était au mois de... Excusez-moi. Au mois de mai, il m'appelle en plein après-midi pour me dire qu'il était mis à pied au travail, qu'il voulait venir, qu'il voulait prendre un avocat, etc. Donc, moi, j'en avais assez de régler ces problèmes et je l'ai envoyé promener, en fait.
Bah oui, il a quel âge, là, maintenant ?
45 ans.
Oui, 45 ans, on n'appelle pas maman quand on a un problème.
Et voilà. Et donc, moi, ça faisait déjà quelques mois que j'avais perdu mon mari. Tant qu'il était avec moi, mon mari, on essayait tous les deux, mais bon, moi j'étais épaulée, mais là j'ai plus personne, donc pour moi c'est trop lourd. Et puis j'arrive plus à gérer ces problèmes parce que il est toujours en train de me dire quand on l'avait au téléphone, quand il venait à la maison et qu'on était tous les deux, quand il venait en week-end, alors il avait toujours des problèmes d'argent, ou alors il nous parlait toujours de ses problèmes au travail, donc. Mais on était tous les deux, on essayait d'arrondir les angles, on va dire. Mais là, moi, j'en pouvais plus parce que j'ai le deuil de mon mari à faire, que je ne peux même pas faire parce que c'est parasité par tous ces problèmes à lui. Donc, j'ai été pendant près d'un an sans avoir de nouvelles. Je ne savais pas si... Je savais qu'il avait une mise à pied importante.
Il est loin de vous, géographiquement ?
À 130 km à peu près.
D'accord.
Et... Donc, j'avais plus de nouvelles jusqu'à cette année. Le jour de la fête des mères, j'étais absente quand il est venu. Et il avait déposé des fleurs sur la fenêtre de ma maison. Donc, je l'ai appelé. J'étais très, très angoissée parce que je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Et donc, là, il m'a dit qu'il retravaillait dans la même administration, mais on l'avait changé de service. Il me dit c'est un mal pour un mieux. Au final, je travaille dans une équipe avec laquelle je m'entends bien.
Bon, mais il a trouvé une solution sans vous, vous voyez ?
Oui. Cet été, il est revenu vers moi parce que moi, en fait, chaque fois que le téléphone sonnait depuis quelques années, d'ailleurs, quand mon mari était encore là, c'était lui qui prenait parce qu'il m'avait tellement... Il nous avait tellement posé de problèmes que chaque fois que je voyais que c'était lui qui appelait, je me dis c'est encore pour nous soumettre un problème en fait. Donc j'arrivais plus à prendre les téléphones. Alors étant seule, là c'était pire. Et donc comme j'avais pas voulu l'aider lorsqu'il a eu ses problèmes au travail, donc il me harcelait avec toute la journée. Je ne sais pas combien de fois par jour, il m'envoyait des SMS d'insultes, en fait. Donc, j'ai fini par changer mon numéro de téléphone. Donc, je me suis dit, comme ça, je vais avoir la paix.
Pourquoi est-ce qu'il a instauré cette relation à la fois violente et extrêmement fusionnelle avec vous ?
Je ne sais pas. C'est bien là le problème. Je ne sais pas. Il y a probablement une raison. Nous, on lui avait dit de consulter, hein, de consulter. Il l'avait fait à un moment donné. Il était suivi, mais il a dû y aller que 6 mois. Et un jour, il revient en week-end. Hein, je dis est-ce que tu vas toujours ton thérapeute, ton médecin ? Il me dit non, j'ai plus rien à lui dire. Bon, j'ai pas insisté, comme vous. Il est majeur. Hein, on pouvait pas le forcer nous d'y aller. Et donc, effectivement, je pense. De toute façon, il a certainement un problème depuis, je pense, peut-être qu'il remonte à la petite enfance, mais quoi, moi, je ne sais pas. Hein. On a essayé, mon mari et moi, de l'aider au maximum. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a... Mais il a aussi quand même, faut que je vous le dise, il a touché à des drogues pendant qu'il était adolescent.
Est-ce qu'il n'a pas subi des problèmes de harcèlement scolaire, des choses comme ça ?
Je ne crois pas, non.
C'est curieux quand même qu'il soit brillant et qu'il ait voulu quitter l'école aussitôt.
Ben, il avait redoublé, parce qu'il ne travaillait pas, hein, parce que sinon il n'avait pas besoin de redoubler. Il a dû redoubler, oui c'est ça, il avait redoublé la troisième je crois, et puis aussi la première. Mais après, quand il avait repris, là, ça se passait très très bien parce que il avait des bonnes notes, hein, puisque je vous dis, il a eu une mention à son équivalent de bac.
Oui, c'est ça. Mais quand il veut, il peut quoi.
Quand il veut, il peut. Tout à fait. Oui, oui.
Il n'a pas de problème de ce côté-là du tout. Hein.
Et quand il est rentré dans son administration, là, il a été titularisé très vite. Hein, il a dû passer seulement deux fois le concours, et donc il est en catégorie B. Mais là, je sais que ils ont dû. Je pense qu'ils ont, je ne sais pas comment expliquer, ils l'ont écarté du service parce qu'il a dû se passer quelque chose d'important. Et moi, je n'ai pas voulu véritablement savoir ce qui s'était passé parce que ça m'angoissait trop. Et quand ça m'angoisse, j'ai fait des crises d'anxiété généralisée à cause de ça. Hein, parce que moi-même, je suis suivie maintenant à cause de tout ce que j'ai encaissé depuis des années, en fait. Et puis là, mon mari n'étant plus là, donc c'est pire.
Vous voyez, ce que vous pouvez apprendre là de ce qui s'est passé, c'est qu'en lâchant prise, ça s'est bien passé pour lui.
Pardon ?
Je dis, ce que vous pouvez apprendre de ce qui vient de se passer là, cette dernière année, c'est qu'en lâchant prise, ça s'est bien passé finalement. Vous avez épargné de prendre tout sur les épaules, et lui, il a trouvé une solution, puisqu'il vous dit, c'est un mal pour un mieux.
Oui, mais depuis... il m'a renvoyé, donc il est venu me voir, alors cet été il a essayé de me voir, j'étais pas là, enfin bref, et donc je l'ai recontacté, alors je l'appelle un soir, puisque j'ai vu qu'il était, parce que j'ai un visiophone à la maison, donc je vois qui est passé dans la journée, donc je l'ai appelé, mais j'étais très angoissée, mais je dis je vais l'appeler, puisqu'il est passé me voir, je vais quand même lui demander ce qu'il a, d'une humeur massacrante. Il était à découvert à la banque, il n'avait plus d'argent, enfin rien n'allait. Bon, alors comme j'ai perdu mon mari et puis que je dois, je vais peut-être me séparer de la maison, enfin, faut que je trouve d'abord un appartement. Et donc j'ai voulu lui donner, si vous voulez, une partie qui lui reviendra si je vendais mon bien, pour l'arranger, parce qu'il m'avait parlé qu'il voulait acheter un appartement. Donc je me suis dit, au fond, donc j'ai fait évidemment le nécessaire auprès du notaire pour que ça paraisse lors de la succession. Et donc, je lui ai donné quand même une somme assez importante, 15 000 euros quand même.
Oui.
Et là, alors, ça a calmé tout de suite les choses. Ah bon, parce que tu vas me donner combien? Et bien, je dis, écoute, ce sera un acompte, hein, sur la vente de la maison, de toute façon, si ça peut te rendre service pour acheter un appartement. Et donc là, ça s'était plutôt pas mal passé. Il s'était excusé des propos qu'il avait tenus auparavant avec moi. Et voilà, on est resté là-dessus. Je lui ai donné le chèque, il est venu me voir. On a parlé, on a pu discuter quand même de façon assez sereine, on va dire. Mais moi, j'étais très angoissée quand il est venu, très angoissée parce que parfois, la moindre parole que je lui dis de travers, ça part en vrille. Et donc, mon mari n'étant pas là, moi, j'étais pas très bien, mais j'ai pas voulu le montrer quand même, puisque je me suis dit, si on peut arriver à avoir des relations plus sereines, autant le faire, quoi.
Oui, donc, en espérant qu'il ne faille pas faire un chèque à chaque fois pour avoir une relation sereine avec lui.
Non, exactement. Ben là, de toute façon, je pense qu'il a compris que moi, je ne vais pas refaire un chèque la semaine prochaine pour avoir de meilleures relations avec lui. Mais il y a un mois à peu près, moi, je pensais qu'au travail, ça se passait mieux. Donc, moi, j'étais aussi rassurée de ce côté-là. Et il m'envoie un message en plein milieu d'après-midi. Enfin, voilà, le contenu du message, ça voulait dire que ben, au travail, ça n'allait plus, quoi. Voilà ce que je fais de mes journées. Enfin, c'était quelque chose du genre. Et depuis, moi, je suis très, très inquiète. Voilà, je me tracasse à nouveau et je vis vraiment avec ça à l'esprit. Même si je sais que je ne dois pas m'en occuper. Moi, ma crainte, en fait, c'est qu'il perdrait complètement son travail, quoi.
Vous ne trouvez pas que vous en avez assez sur le dos comme ça pour ne pas prendre ça en plus? En plus, vous me dites, je sais que je ne devrais pas. Alors, pourquoi est-ce que vous le faites quand même?
Je ne sais pas. C'est, voilà, je suis une maman. Donc, oui. Et c'est vrai que j'ai réussi tout de même à prendre du recul, mais j'ai toujours ça à l'esprit. J'arrive pas à me débattre. C'est-à-dire que là, chaque fois que mon téléphone sonne, je suis encore en train de me demander si ce n'est pas lui... qui va m'appeler pour me solliciter, parce qu'il a encore des problèmes. Et pourtant, quand on a discuté là, le dimanche qu'il est venu donc, chercher son chèque, là, il m'a dit « Mais maman, il ne faut pas te tracasser, je vais bien. » Je dis oui, mais il ne faut pas que tu m'envoies des messages pour m'indiquer qu'il y a un problème, que tu as découvert la banque, qu'au travail, tu t'engueules. Enfin,
oui, mais il a compris comment vous fonctionnez, Léa. Il appelle, vous répondez. Il demande, vous donnez.
Oui, c'est ça.
Alors, juste pour comprendre aussi un peu la situation plus globale, vous avez mentionné une fille.
Oui.
Elle est plus jeune ou plus âgée que lui?
Elle est plus jeune, de 3 ans.
Et comment ça se passe avec elle et entre eux?
Alors, ils ne se parlent plus.
Depuis quand?
Ils ne se parlent plus. Oh, ça fait déjà du temps. Ça fait déjà plusieurs années. Hein. Au moment du départ de mon mari, ils se sont, le soir, d'abord, enfin, ils se sont disputés parce qu'elle est allée lui reprocher des choses. Parce que c'est vrai qu'il était tellement compliqué.
Il y a beaucoup de conflits. Pardonnez-moi, Léa, je dois marquer une courte pause, si vous le permettez.
Oui.
Vous ne quittez pas, on reprend cette conversation dans un tout petit
D'accord,
instant.
D'accord, je vous remercie.
Merci à vous, à tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Léa, vous êtes là?
Oui.
Oui, vous me disiez que ça se passait mal entre eux déjà, même avant la disparition de votre mari?
Oui, tout à fait, oui. Et lors de la disparition de mon mari, donc forcément, ils étaient à la maison. Et ils n'ont pas trouvé mieux que de se disputer le soir. Je leur ai dit, mais enfin, je dis, c'est pas le moment de régler vos comptes. J'ai essayé, moi, d'apaiser les choses. Donc, ça s'est apaisé. Hein. Mais le soir, mon mari venait de partir. Moi, j'avais toutes les démarches à faire. J'étais un peu... vous imaginez que c'était
bien
très
sûr,
compliqué pour moi.
Sûr.
Et en plus, eux qui ne trouvaient pas mieux
C'est très irrespectueux et pour vous et pour votre mari.
Ah oui, ça m'a... Et vous voyez, le fait de vous en parler, là, je suis sous le coup de l'émotion. J'y repense souvent, j'y repensais encore tantôt. Je me dis, mais c'est pas vrai, pourquoi ils ont... Donc après, enfin, voilà, ils ont été là 3 jours à peu près, hein, mon mari est parti jeudi soir. Donc après, ça s'est pas trop mal passé. J'ai pu parler à mon fils, je lui ai dit, quel que soit ce que va te dire... ma sœur, j'ai dit, tu me promets que tu vas rester calme, parce que c'est pas le moment de régler vos comptes alors que votre père il vient de disparaître. Donc il m'a dit, je te promets maman, et effectivement ça s'est pas trop mal passé après.
Mmh.
Donc ils sont repartis chacun de leur côté parce que ma fille habite à l'étranger. Et depuis ils se sont pas recontactés, je ne pense pas. Quant à ma fille, elle, l'adolescence, ça s'est très bien passé, il y avait pas de problème avec elle. Mais quand elle est devenue, elle est partie vivre à l'étranger avec son compagnon, le papa de sa fille.
Mmh.
Ils se sont séparés. Bon, ça c'est pas encore le problème, mais depuis quelques années, les relations avec elle se sont distendues. Je voyais bien, elle nous appelait de moins en moins. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle a quitté la France. Et au moment de la succession de mon mari. Donc, elle avait donné une procuration à son frère parce qu'elle elle était repartie donc dans le pays où elle habite. Et elle avait donc reçu un courrier après du notaire. Et elle croyait qu'elle allait avoir une somme d'argent assez importante. Mais en fait, on s'est fait donation. Mais c'est vrai que les sommes apparaissent. Bon, après, les termes en droit. Effectivement, moi, si j'avais reçu ce courrier-là, j'aurais peut-être pensé que j'aurais eu de l'argent aussi. Donc, je me suis mis à la place de mes enfants. Donc, je leur ai expliqué que non, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. Mais depuis, elle m'a envoyé... ça va faire un an à Noël que je n'ai pas de nouvelles. Et les derniers SMS que nous avons échangés, je voyais bien que c'était par rapport à l'argent. Donc, je pense qu'elle me fait la tête, elle, parce qu'elle pense que j'ai fait des choses chez le notaire derrière son dos pour ne pas lui en donner. Vous voyez, c'est une complication.
Est-ce qu'elle a su que vous aviez donné 15 000 euros à son frère?
Alors, justement, je voulais lui en donner à elle aussi. Je ne peux plus la joindre au téléphone. Bon, j'ai ma petite-fille au téléphone, mais bon, je ne veux pas me servir de ma petite-fille pour faire les commissions à sa mère. Je pense que ma petite-fille, elle a 19 ans, donc elle a très bien compris ce qui se passait entre sa maman et moi. Donc moi, je veux garder de bonnes relations avec ma petite-fille. Je l'ai de temps en temps au téléphone. On échange aussi par SMS, je lui demande si l'école va bien, etc. Et alors moi, j'ai voulu appeler ma fille cet été-là, et elle a changé de numéro de téléphone, elle ne m'a pas prévenue. Bon, donc j'ai laissé tomber, j'avais préparé aussi les documents pour qu'elle puisse les signer et que ça vienne aussi en déduction de la maison quand je la vendrai. Mais puisque elle ne me donne pas de nouvelles. Ben, les papiers sont en attente. Donc voilà, pour l'instant, je ne lui ai pas donné. Mais je n'ai rien fait, évidemment, derrière son dos. Je ne vais surtout pas donner plus à l'un qu'à l'autre. Ce n'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Hein. Je veux absolument être au plus juste.
Équitable, bien sûr. Bah, voilà. Peut-être pourriez-vous régler ça quand même en lui envoyant un courrier ou en faisant transmettre un message quand même par votre petite fille, sans rentrer dans les détails, mais...
Oui.
Il y a quand même quelque chose qui n'est pas terminé là dans cette histoire. C'est-à-dire que la moitié a été donnée à son frère et rien à elle.
Ben pour l'instant non, puisque elle me donne plus aucune nouvelle. Mon fils, malgré le comportement qu'il a, il est revenu vers moi quand même. Mais bon, j'avais préparé les documents, hein, puisque en fait, c'est fait sous forme de reconnaissance de dette. Hein. J'ai demandé au notaire comment rédiger. L'acte, en fait, c'est un acte, hein. C'est enregistré après. Enfin, la notaire m'a expliqué comment faire. Hein. J'avais demandé parce que je voulais absolument que ce soit fait dans les règles. En plus, quand il y a des conflits, il ne faut pas.
Oui, non, j'ai bien compris, mais la question que je me pose, Léa, parce que là, j'essaie de faire un peu le tri dans tout ce que vous me déposez sur la table.
Oui, c'est compliqué. Hein.
Non, ce n'est pas compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses émotionnellement qui ne sont pas réglées.
Oui.
Et je pense que vous ne vous êtes pas posé pour travailler sur l'émotionnel, mais on en parlera après. Simplement, en ce qui concerne l'argent, demandez-vous si vous le faites parce que vous trouvez ça juste ou si vous le faites parce que vous avez besoin que vos enfants reviennent vers vous.
Mais écoutez, c'est presque la deuxième formule.
On est bien d'accord, parce que vous me dites, j'ai donné de l'argent à mon fils parce qu'il est revenu vers moi. Ma fille ne revient pas, et ben, tant pis pour elle.
Donc c'est un peu.
Et oui, mais
si, parce que de toute façon, j'envisage là de vendre mon bien, parce que je ne voudrais plus rester dans la maison.
Peu importe. Lourd, en fait. Là, en l'occurrence, il y a 15 000 euros que vous auriez pu lui donner que vous l'avez pas donné. C'est comme une monnaie d'échange, et ça me paraît pas une relation intéressante d'instaurer ça entre eux et vous.
Oui, c'est vrai.
Parce que une fois de plus, vous vous mettez dans une situation d'attente. Vous espérez que ça va débloquer quelque chose.
Oui.
Et eux, vous les mettez dans une situation de dépendance et d'intérêt.
Oui.
Vous exacerbez chez eux un côté qui n'est pas très joli, je trouve.
Oui, parce qu'on on leur a donné. Ils ont été. Je pense qu'ils ont été beaucoup gâtés par leur grand-mère. Mon mari était fils unique, donc il n'avait que ces deux. Et c'est elle qui les gardait quand on travaillait. Et je pense qu'ils ont. Alors, je ne sais pas. Hein, parfois, j'imagine que c'est peut-être pour ça que. Enfin, pour moi, ce sont des enfants gâtés. Alors, nous. On leur a quand même payé deux voitures à chacun parce que voilà, ça c'est la première, elle était usée, on en a racheté une deuxième, ils ont eu chacun deux voitures.
Oui, je pense qu'ils sont sur ce plan-là, ils sont pas malheureux maintenant, vous savez. Là, depuis tout à l'heure, vous me dites ils font ci, ils font ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. La question à vous poser, c'est vous. Pourquoi acceptez-vous ça? Pourquoi vous êtes-vous mise dans une relation comme ça avec vos enfants? Et à partir de quand allez-vous décider, de prendre soin de vous d'abord?
Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit parce que je suis suivie aussi.
Je ne sais pas qui est « on », mais on a raison.
Oui, vous avez raison. Si, je suis suivie par deux thérapeutes, un psychiatre, et je vois aussi une psychologue. Et ils me disent la même chose que vous, en fait.
Parce que déjà, avant même le départ de votre mari, je pense qu'ils ont beaucoup tiré sur la corde.
Oui, tout à fait.
Mais là, vous avez, vous, un deuil à faire. Et quand vous me dites, j'ai même pas le temps de le faire, mais c'est juste...
Non.
C'est juste pas normal, ça, Léa.
C'est vrai.
Vous avez... La priorité, c'est vous. Vous avez besoin de vous poser, de faire votre deuil. Vous êtes votre priorité. Mais non, ce sont des adultes. Il y en a une qui vit à l'étranger, l'autre qui vit sa vie, qui travaille pas. Il fait 45 ans, quoi. C'est bon.
Hein? Oui, c'est vrai.
Vous avez donné beaucoup financièrement. Vous avez donné beaucoup matériellement. Beaucoup humainement. Je pense que vous avez été une maman qui a fait tout ce qu'elle a pu et de son mieux.
Exactement.
Mais aujourd'hui, il faut vraiment que vous lâchiez l'affaire, hein, si je peux me permettre.
Oui. Oui, il faut. Mais j'ai beaucoup de mal parce que ça me fait souffrir, en fait, cette situation-là. Mon fils, lui, c'est une angoisse. Oui, c'est ça. Il me provoque de l'angoisse et de l'anxiété généralisée. Mon mari, c'est une souffrance. Et. Je fais la différence entre les deux, mais je n'ai pas réussi encore à faire mon deuil parce que, comme je vous ai expliqué, c'est parasité par le comportement de mes enfants.
C'est-à-dire que vous êtes rempli de souffrances et de peur et de douleur, mais au lieu de les soigner chez vous, vous allez encore soigner l'autre.
C'est vrai. Et
oui,
c'est
mais
tout
non.
à fait vrai. Oui.
Alors, je vais simplement vous poser une question. Si aujourd'hui,
Oui.
vous aviez devant vous la petite fille que vous étiez,
Oui.
qu'est-ce qu'elle vous dirait?
Si j'avais devant moi la petite fille que j'étais, je sais pas.
Si elle vous voyait aussi peu prendre soin de vous aujourd'hui?
Là, je ne sais pas quoi vous répondre, en fait. Je suis un petit
Non,
peu...
je ne vous demande pas de répondre forcément tout de suite, mais de penser à ça dans les jours qui viennent.
D'accord.
Si cette petite fille que vous étiez, voyez à quel point vous la négligez. Vous négligez.
Oui, c'est vrai. Pourtant, comment dire, je me laisse pas aller. Hein. Je fais énormément de sport. Je fais jusqu'à 5 à 6 heures de sport par semaine. Vous voyez, ça m'aide beaucoup.
Oui, mais ça vous aide pour tenir debout.
Ça m'aide pour tenir debout, oui, parce
Et oui,
que
mais
sans... Oui.
cette énergie-là, vous ne l'employez pas pour vous ensuite, vous l'employez encore pour votre fils. À
Oui.
vous inquiéter pour lui, à vous poser des questions pour lui, à le faire revenir, à lui faire un chèque, à ci, à ça.
Exactement, oui.
Mais vous, vos émotions, pendant ce temps-là, elles sont en boule dans un coin, elles attendent qu'on s'occupe d'elles.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai, oui. Oui, parfois je me dis, mais comment j'arrive encore à tenir debout, à me lever le matin, j'ai encore, je me laisse pas aller du tout. Hein. Je me maquille, je fais du shopping, je fais de, mais j'ai quand même toujours, dès que je suis plus dans les, enfin voilà, en mouvement, si je puis dire, forcément, je replonge dans mes, tous mes tourments reviennent. Hein. J'arrive pas à m'en débarrasser.
Mais hein. Vous êtes en thérapie pourtant là en ce moment.
Oui, je suis, oui.
Et vous
ça me fait du bien. Hein.
Ben, j'imagine, mais vous travaillez sur quoi alors?
Moi, c'est par la parole. Le fait de parler me fait énormément de bien.
J'ai bien compris, mais de quoi vous parlez avec elle, ou lui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme.
De ce que je vous ai expliqué là.
Mais tout ça,
tout à
c'est... Alors, je reformule ma question. Est-ce
oui.
que vous travaillez sur cette distance à prendre avec votre fils?
Oui.
Ah,
oui,
voilà.
les deux thérapeutes qui me suivent me disent effectivement de prendre de la distance.
Je comprends pourquoi le témoignage de Nadine hier a résonné en vous, parce que c'était vraiment un peu la même situation.
Un peu, hein, oui.
Et ce qu'on voit chez les autres, quelque part, c'est en reflet par rapport à notre propre vie, quelquefois, et on se
oui.
dit, tiens.
Oui.
Et donc, je crois que La solution, vous la connaissez, vous l'avez. Je ne peux pas vous dire plus que ça.
C'est vrai.
La priorité, c'est vous.
Oui, c'est
ça. Et ce n'est pas un service à leur rendre, ni à l'un ni à l'autre, de les maintenir dans une dépendance comme ça, dans une relation qui ne vous fait pas de bien. La meilleure preuve, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec eux.
Non. La preuve...
Donc, plus vous faites, moins ça marche. Donc, de toute façon,
oui.
Ça sert à rien.
Et je ne peux pas acheter... comment dire, régler les problèmes avec mes enfants et de l'argent, c'est malsain, hein. Ça je conçois tout à fait. Hein.
Et surtout, ça ne marchera pas.
Pardon ?
Ça ne marchera pas ?
Ah non, ça ne marchera
ça
pas.
Ça va marcher le temps de la soirée où il encaisse le chèque, et puis 15, voilà, 15 jours après, c'est reparti. Au secours, maman, ça ne
oui.
va pas. Et
oui.
une fois de plus,
donc,
en vous mettant sur leur chemin tout le temps, vous les empêchez d'affronter leurs épreuves et de grandir tout seul à un moment donné.
Oui, c'est vrai, c'est cela. C'est
même s'ils se cassent la figure, et bien c'est en se cassant la figure qu'on apprend à se relever.
Évidemment, oui.
Et vous, en ce moment, vous avez aussi besoin de vous poser sur l'épaule de quelqu'un et de vous occuper de vous d'abord.
Ah oui, c'est vraiment très très dur. C'est vraiment très dur, c'est pour ça que je vous écoute tous les week-ends, là, et puis aussi la semaine, c'est une autre personne qui assure l'antenne. Mais,
c'est Olivier Delacroix la semaine, oui.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Bon Léa, je vais devoir vous quitter parce qu'on a pas mal d'appels derrière vous. Je pense que vous savez, dans le fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire maintenant.
Oui, hein oui.
Prenez soin de vous d'abord, s'il vous plaît.
Oui, d'accord.
Et je me permets de vous embrasser très fort.
Eh bien moi également, je vous remercie beaucoup Sabine pour votre écoute.
Merci à vous. Au revoir Léa.
Merci beaucoup, au revoir.
Bonsoir Karine.
Bonsoir. C'est Sabrina ?
Non, c'est Sabine.
Sabine, excusez-moi Sabine. Voilà, je me permets de vous appeler par rapport à ma maman qui a 89 ans et qui enfin, depuis l'âge de 10 ans, on était tout enfant, elle avait une pathologie, elle était paranoïaque et elle avait des problèmes psychologiques, là, et avec le temps, ça s'accentue. Donc voilà, là, elle a un début d'Alzheimer.
89, donc, voilà. Hein, vous me dites.
Oui, 89 ans. Donc, tous les jours, elle nous appelle, elle est dans le jardin, sous la pluie, elle va voir l'un, elle dit qu'il y a une bombe dans sa maison, qu'il y a des gens qui sont dans sa maison. Donc voilà, on est tous les jours, on a un coup de fil, on devient complètement dingue avec mon frère. Mon frère m'aide, il est adorable, il m'aide aussi, il travaille aussi, donc c'est pas évident. Et donc, en fait, je voulais vous parler d'un problème en deux, parce que moi, j'ai une reconversion professionnelle. Et
Karine, il y a beaucoup de micro-coupures. Est-ce que vous bougez, là, en parlant?
Non, pas du tout.
J'espère que ça va aller, parce que c'est le son est très bizarre.
Ah, d'accord.
Donc, vous me disiez deux problèmes?
Deux problèmes en deux. C'est que moi, je dois faire une reconversion professionnelle. Mmh. Être animatrice socio-culturelle, voilà, et je n'ai pas le temps avec ma maman qui me prend tout son temps, tout mon temps, tous les jours elle m'appelle, je ne sais pas comment faire. Donc voilà, alors, deux problèmes. C'est, je n'ai pas envie de mettre ma mère en EHPAD, je n'ai pas envie.
Oui.
Ça me fait de la peine. Mais je préfère qu'elle m'agresse, qu'elle délire et tout, plutôt qu'elle soit en EHPAD, parce qu'autrement, on va la sédater, parce qu'elle délire totalement. Donc voilà, j'ai pas envie qu'elle soit sédatée. Donc voilà. Et puis, moi aussi, j'ai une reconversion professionnelle et j'ai pas le temps avec maman, j'ai pas le temps.
Ah oui, alors elle est où la solution?
Je sais pas. Est-ce que je dois devenir aidante? Je sais pas. J'ai pas envie parce que maman me. Je sais pas si c'est une bonne idée de s'occuper de sa mère. Je sais pas si c'est une bonne idée.
Ce que je trouve curieux, elle vit seule à 89 ans et dans cet état-là.
Ah oui, mais elle a toujours vécu, mais elle a un égo surdimensionné. Elle a une. Elle a une fierté, c'est incroyable.
Mais certes, mais peu importe, si elle se met en danger elle-même, son égo et sa fierté, elle peut s'asseoir dessus. Hein.
Ah oui, mais elle nous épuise.
Parce que les symptômes dont vous me parlez, je ne suis pas complètement sûre que ce soit Alzheimer. Est-ce qu'elle a vraiment été diagnostiquée Alzheimer?
Non, on a voulu l'amener dans un hôpital pour faire un bilan neurologique, elle a refusé. Elle a refusé, donc on a dû la ramener chez elle.
Parce que ce dont vous me parlez, ça ressemble plus à des délires paranoïaques.
Hein. Oui, mais depuis l'âge de 10 ans, on a vécu avec une maman pathologique. Oui. Mais avec l'âge, ça s'est aggravé, elle perd la mémoire tous les 3 heures.
Donc il est clair qu'elle est en danger toute seule, vous êtes bien d'accord là-dessus?
Oui.
Elle est capable de faire n'importe quoi, même d'allumer le feu, de ne pas l'éteindre, de laisser sa porte ouverte.
Non, elle fait attention au gaz, elle fait attention à tout. Par contre, elle va perdre les clés, elle va devenir avoir des propos incohérents et voilà.
Enfin, quand vous dites, elle fait attention à tout jusqu'au jour où, hein. Parce que là, c'est très très limite quand même.
Oui, mais on se donne jusqu'au mois de février. On va essayer de l'amener dans un hôpital. Pour lui faire des examens, mais j'ai une mère qui est égocentrée, qui a toujours eu, qui a un égo surdimensionné.
Et donc, qu'est-ce que ça vous pose aujourd'hui comme problème?
Je ne sais pas comment réagir avec elle. J'essaie de réagir avec douceur, mais elle est très pertinente, très froide, très. Et puis, par moments, elle est incohérente, quoi, voilà.
Mais sans la mettre en EHPAD, elle ne pourrait pas être en hôpital de jour, par exemple, dans sa vie de psychiatrie de jour?
Non, elle ne voudra pas. Elle ne veut plus sortir de chez elle.
Elle, elle veut rester chez elle. Et vous, vous ne voulez pas non plus la mettre à l'extérieur, en maison de retraite?
Mon frère veut la faire hospitaliser au mois de février.
Pourquoi février?
Parce que pour lui donner le temps de parce qu'elle elle a eu peur, on l'a amenée la dernière fois et elle a déliré, elle a dit je vais faire en plus elle parle d'exorcisme, de cabale, de
oui,
choses occultes.
Elle est en plein délire paranoïaque, ça c'est clair.
Voilà, absolument.
Mais c'est un danger pour elle et pour les autres, donc j'ai
plus,
du mal à comprendre.
Oui, elle me dit je vais te tuer, tu vas mourir dans un mois.
Oui, c'est ça, c'est typiquement ce genre de délire. Mais qu'est-ce qui vous bloque à la mettre en maison de retraite ou maison médicalisée au moins?
Mais elle ne veut pas sortir de chez elle. Elle ne veut pas sortir de chez elle.
Elle approche des 90 ans et elle a une pathologie. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus elle qui va choisir, malheureusement.
Oui, le médecin a dit qu'il va falloir l'hospitaliser d'office.
Ben oui.
Oui.
Ben, ça me paraît, mais même pour sa propre sécurité.
Oui, mais
sécurité,
je ne veux pas qu'elle soit sédatée, parce qu'elle s'est toujours soignée en homéopathie, alors qu'elle avait d'autres problèmes. On aurait dû vraiment être pris en psychiatrie, quoi, voilà. Et donc voilà.
Je ne vais pas vous faire de peine, mais on ne va pas soigner un délire paranoïaque avec des granules d'homéopathie.
Oui, je sais.
Là, il faut être sérieux quand même.
Oui.
Donc, une dame qui va avoir 90 ans, qui est en délire comme ça, qui peut être un danger pour elle-même, il n'y a pas 10 000 solutions. Ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, vu son état psychologique, voire psychiatrique, ce n'est pas elle qui décide. Et je pense que le médecin doit vous l'expliquer très bien, ça.
Mais jusqu'à maintenant, on a vécu en même... Depuis l'âge de 10 ans, on vit avec maman comme ça. On vit dans un état de délire, quoi, chaque fois.
Sauf que là, il y a l'âge. Et une femme de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui est en délire, c'est difficile, je comprends. Mais c'est moins dangereux. Mais là, à près de 90 ans, c'est extrêmement dangereux.
Oui.
Même pour elle, si elle se fait une crise ou elle saute par la fenêtre parce qu'elle a vu quelqu'un ou quelque chose, vous faites quoi?
Non, mais elle ne sautera pas par la fenêtre. Elle a trop envie de vivre. Elle s'occupe d'elle. Elle pense à elle et pas à ses enfants. C'est elle qui passe en premier.
En plus, mais ce que je veux dire, c'est que pendant une crise, on n'est plus dans ce genre de réflexion-là.
Ouais.
Vous me dites qu'elle ne sautera pas par la fenêtre. Vous n'en savez rien. Si pendant une crise, il se passe dans son esprit quelque chose, elle entend une voix.
Non,
ça ne le
fera pas.
Ou elle voit quelqu'un.
Elle ne le fera pas. Elle a trop peur de la mort. Elle a trop peur de la mort.
Ben je vous souhaite que ça n'arrive pas, mais quand on est dans des délires comme ça, c'est compliqué de dire ça n'arrivera pas, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer alors, de prendre une décision pour elle?
Je ne veux pas qu'elle soit sédatée, parce que quand elle délire, le médecin l'a vue, elle était incohérente, elle était... Et le médecin l'a amenée, a voulu l'hospitaliser, elle a refusé, donc voilà. On a dû la ramener chez elle, je lui ai fait les courses, plein de bonnes choses et tout, je lui ai amené plein de bonnes choses, des gâteaux, des ci, des là. Mais voilà. Et puis moi, je suis complètement coupée du monde. Parce que tous les jours, il y a quelque chose.
Oui, elle vampirise un peu votre vie et votre évolution, là, si je comprends bien.
Mais ça fait depuis des années. Ça fait depuis 40 ans qu'elle nous vampirise.
Quand vous dites « je ne veux pas qu'elle soit sédatée », est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dealer avec le médecin en disant, par exemple, est-ce que si maman est hospitalisée ou si elle rentre en EHPAD ou en maison médicalisée, est-ce qu'on peut trouver un système pour qu'elle ne soit pas complètement assommée de médicaments, par exemple?
On a voulu lui donner des médicaments, un antidépresseur. Elle n'a pas voulu les prendre. On a pris une infirmière, parce que j'ai dit au médecin elle ne les prendra pas. Donc voilà. Et même l'infirmière n'a pas pu... elle a arrêté.
Mais je me dis que c'est pas à vous de gérer ça, Karine. Ça, c'est un problème. C'est au corps médical de gérer ça avec elle. C'est pas à vous de l'obliger ou de ne pas l'obliger ou de choisir.
Ce ce que nous a dit le médecin, où elle va tomber, où elle va tomber, et on sera obligé de l'hospitaliser. Mmh. Et là, elle sera hospitalisée d'office. Enfin, voilà. Ou alors, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire.
Karine, on doit marquer une courte pause, le temps des infos.
Oui, d'accord.
Ne bougez pas, on reprend cette conversation dans quelques
minutes. Oui, je vous en prie. Je vous remercie.
Merci à vous.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Cette nuit de samedi à dimanche, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez continuer à nous appeler pour prendre la parole jusqu'au bout, prendre la parole pour parler de vous, de ce qui vous préoccupe ou simplement pour réagir à un témoignage que vous avez entendu et qui vous a peut-être touché. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Et puis je vous rappelle que pour participer par SMS, vous tapez le 73921 en commençant simplement par le mot « nuit ».
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Karine, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Alors, avant de voir plus précisément les options qui s'offrent à vous aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre un peu le contexte de cette histoire de vie. Vous n'avez pas mentionné votre papa ?
Oui, mon papa est décédé en 97, à l'âge de 66 ans, d'un cancer généralisé. Et c'est pour ça que j'ai très peur aussi, parce que j'ai amené ma maman à l'hôpital la dernière fois, et quand j'ai amené mon père, il est décédé 15 jours après.
Oui, mais ça n'a rien à voir, vous savez bien que ce n'est pas la même histoire.
Oui, mais pour moi, c'est pareil.
Ah, mais là,
pour moi, ça revient, ça réactive des choses fortes.
Je comprends bien, mais il y a peut-être un travail à faire sur vous, là, de ce côté-là.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement rationnel par rapport à ce qui se passe là. Vous êtes un peu débordé par vos émotions et vous n'avez peut-être plus le jugement
nécessaire.
Rapport à une situation qui m'a l'air quand même très critique, je ne pense pas que cette femme puisse rester seule. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'elle ait une aide à domicile ?
Oui, mais elle a tout ce qu'il faut. Elle est gâtée pourrie. Elle a une kiné qui vient chez elle. Elle a la dame de les auxiliaires de vie. La coiffeuse qui vient chez elle. Elle a tout ce qu'il faut. On s'occupe d'elle merveilleusement bien. Donc voilà. Mais elle est tellement égocentrée sur elle-même que par moments, j'avais 10 ans, elle délirait aussi. Donc voilà.
J'arrive pas à saisir complètement les contours du problème, Karine, pour être honnête, parce que soit elle est très bien chez elle et elle est capable d'y rester sans danger parce que vous dites qu'il y a une auxiliaire de vie, il y a tout ce qu'il faut. Et alors où est le souci ? Soit elle ne peut pas.
Le souci, c'est qu'elle perd la mémoire. Elle perd ses clés, elle perd la mémoire, elle se barricade dans la maison, elle a des trousses de clés à n'en plus finir. Mm-hmm. Donc voilà, elle est paranoïaque, elle a peur d'une bombe, qu'on mette une bombe dans sa maison, qu'il y a un monsieur qui vienne.
D'accord, donc clairement, elle n'est pas dans son état normal et donc pas apte à vivre seule.
Je sais pas, on va essayer
de... On vous tergiversez autour de des trucs, enfin, à un moment donné, c'est noir ou c'est blanc, c'est-à-dire que c'est pas... Elle peut pas rester à la maison, elle fait des crises de délire paranoïaque, oui mais...
Oui, par moment elle devient normale.
Oui mais, voilà, on est dans un oui mais... Ben, oui, par moment elle devient normale, mais le problème c'est que c'est grave ce qui se passe. Elle se met en danger, même si par moment elle est normale, par beaucoup d'autres moments elle ne l'est pas, elle ne l'est plus.
D'accord.
Et même si vous avez subi ces crises de délire pendant 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, il y a l'âge qui s'ajoute à ça et elle se met en danger. Et en plus, vous n'arrivez pas à la gérer. J'ai bien compris que quand elle vous appelle, visiblement, ça ne se passe pas bien.
Ah ben oui, là, je dois commencer un stage de formation Et j'ai toujours peur, tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, je suis au téléphone et on m'a dit effectivement au niveau du stage de formation que je ne pouvais pas avoir le téléphone, quoi. Voilà.
C'est pas vivable pour vous. Et puis, oui. J'imagine que vous avez aussi une vie, peut-être un mari, des enfants, en plus du boulot, ou des amis, enfin une vie, quoi.
J'ai un compagnon qui a un cancer et qui fait des rayons, enfin qui a un cancer de la prostate. Donc voilà.
Donc vous avez besoin aussi d'énergie pour vous et pour lui.
Oui, là j'avoue que je suis un peu fatiguée.
Mais il y a de quoi. Et votre frère, alors qu'est-ce qu'il propose lui?
De l'hospitaliser au mois de février.
Mais dans quel contexte? Une hospitalisation
en
comment?
En UCC, unité cognitive et comportementale.
D'accord.
À Purpan.
Et quelles sont ses relations avec elle, avec votre maman à lui?
Très bien, très bien.
C'est plus apaisé qu'avec vous.
J'ai un frère formidable.
Oui. Est-ce que votre maman se comporte différemment avec lui, tiens?
Non, elle est pareille. Quand elle délire, elle délire.
D'accord, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence, absolument.
Donc lui, il est en accord avec lui-même sur l'option...
Par contre, lui est beaucoup plus, moins en empathie que moi. Je ne le suis. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour maman. Même si elle est méchante avec moi, elle peut être très méchante. Mais Eric me dit, mon frère me dit, dans 3 heures, elle aura oublié. Donc voilà.
Oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de rationnel avec quelqu'un qui fait des crises comme ça. Donc ça, on peut pas, ça ne sert pas à grand-chose d'aller creuser de ce côté-là. Ce sont des crises de délire. Donc ça, c'est, voilà, malheureusement... Vous les subissez, ce qui est beaucoup plus compliqué là, c'est qu'elle est vraiment en danger. Vous voyez, il y a beaucoup de SMS qui arrivent qui disent « Ne rien faire pour cette dame âgée, ça serait comme une non-assistance à personne en danger. »
Oui, mais c'est ce que je me dis aussi. Mais je n'ai pas envie, parce que ma maman a un comportement qui est irrationnel. Donc elle va être sédatée. Et je ne veux pas qu'elle soit sédatée.
Alors, je vais revenir là-dessus aussi. Pourquoi, si besoin était de le faire, pourquoi vous ne voulez pas ça?
J'ai pas envie qu'elle soit un légume.
Mais on peut être sédaté sans être un légume. C'est une question de dosage. Qu'est-ce qui vous fait peur là? Qu'est-ce que ça fait remonter en vous, cette histoire de sédation, de médicaments?
Parce que moi-même, je suis allée en hôpital psychiatrique. Donc voilà, pour des dû à ma maman aussi. Toujours référence à ma maman qui était délirante et je suis partie en vrille, quoi, voilà.
Mais la grosse différence, c'est que vous étiez jeune et qu'on vous a probablement shooté au médicament pour calmer le moment difficile, le passage. C'est un contexte différent, c'est comme si vous superposiez des histoires qui ne sont pas les mêmes. Vous superposez le cancer de votre papa avec ces crises de votre maman.
Oui, oui, absolument.
Vous superposez votre traitement médical à une éventuelle médication qui serait pour elle aujourd'hui. Tout ça, ce sont des parcours différents, des histoires différentes.
Mais à la limite, je préfère qu'elle m'agresse plutôt qu'elle soit sédatée, quoi, voilà. Même qu'elle est horrible, elle a une voix de « je suis ta vieille maman », enfin, elle prend une voix d'exorciste, enfin, de sorcière, quoi, voilà. C'est horrible à entendre au téléphone. Donc voilà. Mais je préfère qu'elle m'agresse qu'elle soit hospitalisée.
Mais Karine, pardonnez-moi, mais ça, c'est pas à vous de décider. Si elle a besoin d'être hospitalisée et si elle a besoin de médicaments, vous ne pouvez pas dire je préfère moi qu'elle soit comme ça parce que j'ai pas envie qu'elle soit traitée.
Oui,
vous n'êtes pas son médecin.
Je sais, mais son médecin va faire le nécessaire et mon frère, qui est beaucoup plus rationnel que moi, va faire le nécessaire. Donc c'est lui qui va s'occuper de tout. Et moi, je ne prendrai pas en charge ça parce que je ne peux pas.
Ah ben voilà.
Ça me rappelle trop mon père. C'est moi qui ai tout géré par rapport à la mort de mon père. Donc voilà, je ne peux pas. Je peux pas.
Donc c'est bien que votre frère prenne ça en charge. Mais est-ce que vous êtes aidée, accompagnée là en ce moment?
Oui, j'ai une psychiatre.
D'accord.
Et en plus, je dois faire plein de... je suis en reconversion professionnelle, mais je n'ai plus aucune idée. Je dois faire un bilan de professionnel. Et voilà, j'ai plus aucune... Il n'y a plus...
Il n'y a plus d'énergie, là, j'ai l'impression.
Plus d'énergie, absolument. Je suis fatiguée.
Ah oui, elle vous pompe toute cette énergie-là?
Oui.
Et est-ce qu'avec votre psy, vous ne parlez pas de justement de cette distance qu'il est temps de prendre maintenant ?
Oui, mais elle connaît, mais on peut rien. Elle me dit qu'on peut rien faire.
Comment ça, on peut rien faire ? Je parle de vous là, Karine. De vous aider, de vous aider à prendre du recul par rapport à cette maman-là et de laisser un peu les choses se faire sans vous.
Oui, mais c'est ce que me dit mon frère. Il me dit, laisse, tu ne l'appelles plus maman, tu ne l'appelles pas, c'est moi qui m'en occupe.
Mais je pense qu'il a un rôle important dans cette histoire, votre frère. Vous avez la chance
oui,
de l'avoir.
Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux.
Donc ça, c'est reposez-vous sur lui parce que je pense qu'il est solide.
Oui, mais il travaille beaucoup, il est fatigué lui aussi, il ne peut pas tout gérer. Pendant 15 ans, j'ai géré ma maman, j'ai rien demandé à mon frère, mais là, maintenant, je ne peux plus.
Bah c'est bien qu'il soit là pour prendre le relais, justement.
Oui.
À un moment donné où on sent que là, vous êtes un peu... Enfin, au bout, il n'y a plus d'énergie dans les batteries. Vous êtes épuisé, je pense, physiquement et probablement surtout nerveusement par tout ça.
Oui, absolument.
De plus savoir comment la gérer, comment faire. Donc laissez-le faire. Je pense qu'il est voilà, il est, il me semble avoir la tête sur les épaules dans cette histoire-là. Quoi. J'ai toujours pas bien compris pourquoi février, mais bon, ça c'est.
Parce que maman il faut lui laisser le temps de. Elle a eu peur là. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est repartie.
Oui,
on l'a ramenée chez elle. Elle a eu peur.
En espérant que d'ici février, elle fasse pas de crise violente ou dangereuse.
Non, parce que je lui ai dit, par contre, moi, avec maman, je suis honnête. Je lui ai dit, maman, si tu vas voir les voisins, tous les soirs, à 11h ou 10h du soir, tu vas te faire hospitaliser. Et elle a eu peur. Elle a eu peur.
C'est que si vous amenez l'hospitalisation comme une menace, c'est compliqué aussi. Hein.
Oui, mais c'était le seul moyen de la calmer.
Oui.
C'est le seul moyen.
L'essentiel, c'est d'abord sa sécurité à elle, son bien-être,
oui.
Et ensuite, vous aussi, votre liberté de reprendre un peu votre souffle. C'est important, tout ça.
Oui.
C'est important.
D'accord, bon, je ne veux pas vous déranger plus longtemps parce que j'ai accaparé l'antenne trois quarts d'heure, là, donc voilà. Mais j'avoue que même pour mes démarches professionnelles, je ne sais plus. J'ai plus de
d'énergie, c'est ce qu'on disait.
D'énergie, oui.
Vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il est vraiment temps de fermer le robinet et de vous reposer un peu sur votre frère. Chacun son tour.
D'accord.
Vous avez fait beaucoup de choses. Je crois que là aussi, c'est ce qu'on disait avec une auditrice précédente. La priorité, c'est vous maintenant.
D'accord.
C'est vous et laissez faire votre frère, laissez faire les médecins. Et je pense qu'ils savent ce qui est bon pour elle et pour sa sécurité à elle aussi, à son âge. Il est vraiment temps, vous, maintenant, de reprendre votre souffle, votre oxygène et de construire votre nouvel avenir professionnel parce que ça, c'est vraiment très important.
Oui, mais j'ai 54 ans, donc c'est un peu en péril, quoi. C'est un peu tardivement, je fais une reconversion professionnelle.
Eh bien, prenez votre énergie pour ça, maintenant.
Hein. D'accord.
D'accord.
D'accord, bon, mais je vous remercie, Sabine.
Et je vous embrasse très fort, Karine.
Oui, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est l'appel de Mireille que je prends maintenant. Bonsoir, Mireille.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Je vous remercie de votre accueil. Je vous appelle parce que j'ai 57 ans et j'arrive pas à avoir confiance en moi.
Ah.
Je sais pas si j'irai pas peut-être jusqu'à une curatelle parce que j'arrive pas à avoir confiance en moi, à me prendre en charge et je sais plus quoi faire. J'ai essayé de faire de l'hypnose pour traiter mon enfant intérieur pour avoir davantage confiance en moi et je ne sais pas quoi faire.
Alors, racontez-moi un petit peu votre vie. Comment ça se fait que vous n'avez jamais gardé cette confiance ? Parce qu'on vient tous au monde avec une belle confiance quand on est tout petit. Après, c'est la vie qui nous maltraite, qui fait qu'on perd cette flamme-là, cette lumière-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ?
Ben, je ne sais pas trop. Quand j'étais petite, on ne m'a jamais valorisée.
Et voilà.
On me montrait, comment dire, une image. J'étais capricieuse.
On vous renvoyait tout le temps une image négative de vous ?
Oui. Et on m'a jamais valorisée. J'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai fait une psychothérapie pendant 15 ans. J'avoue que je ne me suis pas trop... j'ai travaillé beaucoup de choses. Surtout, j'ai travaillé la relation avec ma mère. Et j'ai pas trop travaillé pendant toutes ces années, la confiance en moi. Je l'ai un peu travaillé, mais pas beaucoup. Et là... j'arrive pas à avoir confiance en moi.
Dans quelle situation vous vous sentez en manque de confiance, par exemple ?
Surtout dans la prise en charge, me prendre en charge.
C'est quoi vous prendre en charge pour vous ?
Mais m'occuper des papiers, m'occuper... faire la cuisine... j'ai l'image de ma mère qui l'a fait bien, gérer une maison, j'irai m'occuper des papiers, m'occuper d'une maison, tout.
D'accord.
Ça, j'ai du mal à le faire.
Mais ça, pour moi, ça n'est pas du tout un problème de confiance en vous. C'est un problème d'humiliation. J'ai l'impression que vous avez un schéma de quelqu'un. Vous parlez de petite fille tout à l'heure, la petite fille intérieure qui a été tellement humiliée, tellement rabaissé, que finalement vous avez presque abdiqué. C'est comme si vous étiez assis sur le bord du chemin en disant « c'est pas la peine que j'avance, je sais pas marcher correctement ».
D'accord.
Ça ressemble un peu à ça, j'ai l'impression.
Quand vous dites... j'ai abdiqué. Je pense que j'ai abdiqué.
Quand vous dites « on n'a pas valorisé », qui est « on » ?
Ben, ma famille. Ma famille ne m'a pas valorisée, ne me valorise jamais. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même. J'essaie de faire beaucoup de choses pour m'en sortir. Je travaille sur moi et personne ne me valorise. Personne ne me dit bravo. Au contraire, on me montre toujours les côtés négatifs.
Et pourquoi pensez-vous que ces gens-là sont comme ça ?
Parce qu'on ne leur a pas eux-mêmes montré des images, parce que c'était une autre éducation, je pense.
D'accord, donc déjà, vous avez ce recul nécessaire pour comprendre que c'est pas à vous, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'eux sont comme ça.
Oui.
Déjà.
Parce que c'est parce qu'eux sont comme ça, et comment vous dire, c'était une autre époque aussi.
Mais oui.
Si vous voulez, je l'ai, puisque j'ai fait une psychothérapie, je vous ai dit, je me suis beaucoup battue sur moi-même et j'ai pas mal de recul. Je ne les accuse pas.
Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'après 15 ans de thérapie, vous en soyez encore à me dire ce que vous me dites ce soir.
Oui, c'est ça. Mais j'ai pas beaucoup travaillé sur la confiance en moi.
Mais tout est lié. La confiance n'est qu'une conséquence, c'est pas une cause.
D'accord.
On travaille pas sur la confiance en soi, on travaille sur le pourquoi on n'a pas confiance en soi. Et en l'occurrence, là, il y a quelque chose évidemment de l'ordre du schéma familial, de la petite fille qui n'a jamais été valorisée, qui n'a pas été confortée, rassurée, qu'on a peut-être comparée aussi aux autres. C'est terrible la comparaison.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans ma famille, il y avait deux personnes qui étaient négatives, qu'on montrait négativement, c'était mon père et ma grand-mère maternelle, et on me comparait à mon père et ma grand-mère maternelle.
Mais ce qui est important, c'est que vous avez compris que si ces gens-là faisaient ça, et si j'en comprends bien, c'est maman principalement qui faisait ça,
oui.
C'est parce qu'elle ne savait pas faire autrement.
Mon père aussi.
Papa aussi, d'accord.
Oui. Comment il m'a... comment dire ? Pardonnez-moi, je suis un peu émue là, je crois.
Non, je vous en prie.
Il m'insultait. Il y avait une violence verbale.
Et vous avez des frères et sœurs ?
J'ai un frère.
C'était pareil avec lui ou c'était un comportement qui vous était réservé ?
C'était un peu moins important avec lui. Parce que moi, c'est important avec lui. Avec moi, ça, c'était plus important. Et mais pour... c'est-à-dire que moi,
oui, pour...
moi, je me révoltais.
Ah, d'accord, c'est pour ça.
Me révoltais.
Il fallait vous taper sur le bec pour vous faire taire, quoi.
Voilà, c'est ça. Et là, je ne sais pas quoi faire pour me sortir de là-dedans. Je veux sortir de cette manque de... Parce que, par exemple, il n'y a pas très longtemps que je me suis dit, je pensais que j'étais aussi pas si bien pour avoir un compagnon. Et ça fait pas longtemps que je me suis dit, mais je vaux autant que les autres.
Ah, voilà.
Je vaux autant que les autres. Mais ça fait pas longtemps, ça fait 3-4 ans que je me suis dit ça. Et là, je me disais aussi, ma mère m'a montré aussi, j'ai pas d'enfant, ma mère m'a montré que d'avoir des enfants, c'était très dur. Et qu'il fallait être perfectible. Il fallait être parfait. Or, éduquer des enfants, c'est pas parfait, quoi.
Donc finalement, j'ai l'impression que le schéma que vous avez en tête, c'est soit on est parfait, soit on laisse tomber, on fait rien.
Ouais, peut-être.
Mais ça, c'est un schéma qui n'existe que dans votre esprit, parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de nuances à tout ça. On peut être dramatiquement nul dans un domaine et parfaite dans un autre, et moyen sur un troisième. C'est ça, la vie. Et là, vous êtes peu dans un tout ou rien, j'ai l'impression. Soit je suis parfaite parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'être, soit je n'arrive pas à être parfaite, et donc du coup, je m'assois par terre et j'attends que ça passe, parce que de toute façon, je vais pas y arriver, quoi. Mais ça, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête.
Oui, oui.
Donc, au lieu de vous répéter tout ce qu'on vous a mis dans la tête, répétez-vous des choses positives à vous-même. Commencez par vous dire à vous des choses aimables. Commencez par prendre conscience de vos capacités tous les jours. Tous les jours, mettez-vous devant un miroir et dites-vous, voilà ce que moi, je suis capable de faire. Voilà ce que j'ai déjà réussi à faire dans ma vie. Félicitez-vous, soyez indulgente avec vous-même déjà.
Oui, je ne suis pas indulgente.
J'entends bien. Et c'est comme si, en fait, vous, inconsciemment, vous répétiez le même schéma. Vous vous faites subir à vous-même ce qu'on vous a fait subir, petite. Vous ne vous autorisez pas à vous donner de la valeur. On ne vous l'a pas donné, cette valeur. Eh bien, prenez-la. Vous savez, je dis souvent que c'est pas pour rien qu'on dit « prendre confiance en soi » et qu'on met le verbe « prendre ». De la même manière que ça ne vous viendrait pas à l'idée, vous, d'aller dire à quelqu'un « je te donne ta confiance, tu as le droit d'avoir confiance en toi », personne ne le fera pour vous non plus, c'est à vous de la prendre, cette confiance. Quand on est grand et qu'il y a un manège devant soi, personne ne va vous porter pour vous mettre sur le manège sur un cheval. C'est à vous de monter sur le manège et de choisir le bon cheval.
C'est-à-dire, c'est à moi de prendre la confiance en moi.
Exactement. C'est à vous de vous répéter que vous avez de la valeur. C'est changer votre regard sur vous-même. Quel que soit ce que les autres ont pu dire, ont pu faire, ça leur appartient, c'est pas à vous.
Oui.
Et en hypnose, j'ai l'impression que vous n'avez pas, soit pas correctement été accompagné, soit pas assez, parce qu'on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, mais pour aller justement lui réparer tout ça et lui donner la confiance. Ouais. Et j'ai l'impression que malgré les séances, vous n'avez pas retrouvé encore cette confiance.
Ouais, c'est-à-dire que là, je suis on n'en a fait qu'une fois de l'enfant intérieur.
Ah d'accord, oui, c'est un peu juste. Ouais.
Et je crois que je vais lui dire qu'elle en fasse d'autres enfants intérieurs.
C'est important, c'est une séance que moi j'appelle la reparentalité, c'est-à-dire de devenir pour vous
le parent.
Voilà, exactement, la mère qu'elle n'a pas eue, et donner à cet enfant-là tout l'amour, toute la confiance, toute la sécurité dont elle a besoin pour être bien, pour se sentir bien.
Il faut plusieurs séances d'enfant intérieur.
Après, ça dépend de l'évolution de chacun, c'est compliqué. Normalement, oui, je pense qu'une seule, c'est un peu court. Ça dépend bien sûr de votre histoire, de beaucoup de choses, mais il est vraiment important que vous changiez votre regard sur vous et que vous changiez vos scénarios internes. Parce que vos scénarios internes, ils sont très négatifs pour l'instant. C'est « je ne mérite pas, je n'ose pas, j'arrive pas ». Dans un sens ou dans l'autre. Hein, grosso modo, vous tournez en boucle avec ces trois trucs-là.
Oui.
Je n'ose pas, je ne mérite pas, j'y arrive pas.
Oui, je n'ose pas. D'accord.
Et ça, il faut vraiment enlever ça de votre tête et vous dire l'inverse chaque jour. Vous dire, mais bien sûr, j'ose. J'ose prendre ma place. Bien sûr, je vais y arriver. J'ai le droit. C'est vous répéter et répéter à la petite fille à l'intérieur de vous, tu es parfaite telle que tu es. Tu as ta place. Vous donnez à vous cette autorisation-là qu'on ne vous a pas donnée. Cette confiance-là, c'est comme une lumière que vous pouvez rallumer en vous.
D'accord.
Ça vous parle tout ça ?
Oui, ça me parle tout ça.
Changez votre regard sur vous et changez la petite voix à l'intérieur. La petite voix qui dit des choses pas sympas, faites-lui dire des choses agréables, positives, tous les jours. Je suis quelqu'un de bien. J'ai de la valeur, je suis capable. Bien sûr que je suis capable. Peu importe ce que mes parents m'ont raconté, c'est leur histoire. C'est leur blessure qu'ils ont mise sur moi, c'est pas à moi tout ça. Aujourd'hui, vous êtes adulte, c'est votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous méritez d'être ou de ne pas être, c'est pas eux.
Je pense que ils ont donné plus de... J'ai un frère, ils ont donné plus de valeur à mon frère.
Peut-être.
Et c'est parce que...
Mais je vous dirais, aujourd'hui, peu importe. Le problème aujourd'hui n'est même plus là. Le problème est de vous libérer de tout ça. Vous pouvez passer des années à parler, à expliquer le pourquoi, du comment. Ils ont été plus comme ci, plus comme ça, moins comme ci, pas assez comme ça. Aujourd'hui, c'est fini. Tout ça, ça n'existe plus. Tout ce qui reste, c'est vos émotions qui sont accrochées à ça. Et ce que vous vous dites. Et donc, il est temps aujourd'hui vraiment de vous dire le contraire. De vous dire, voilà, je prends ma place, j'ai de la valeur. Peu importe ce qui s'est passé avant. Peu importe. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Jusqu'à nouvel avis, c'est ma vie.
Vous pensez que je n'ai pas ma place dans ma famille ?
Ah, ça, j'en sais rien. Pourquoi vous dites ça ?
Parce que je me demande si j'ai ma place.
Qu'est-ce que vous entendez par avoir votre place aujourd'hui, par exemple ?
Je me suis toujours sentie comme un boulet de canon. C'est-à-dire que j'ai pas été désirée.
Un boulet de canon, je ne comprends pas l'expression là, Mireille.
C'est-à-dire que comme quelque chose qu'il fallait traîner de lourd à la patte.
Ah oui, d'accord. Comme le canard boiteux de la famille.
Voilà.
Mais pour quelle raison ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret de famille ou quelque chose qui n'aurait pas été dit ou je ne sais pas ?
Ah, peut-être.
Parce que quelquefois, quand on a ce sentiment-là, c'est qu'inconsciemment, on a enregistré un truc qui n'est pas clair dans l'histoire familiale. Je ne sais pas, c'est peut-être une piste à travailler, mais le comportement différent avec votre frère, ce sentiment de ne pas, avoir votre place, de ne pas être comme les autres.
Je ne sais pas.
Votre maman est toujours vivante ?
Oui.
Est-ce que vous parlez avec elle ? Est-ce que vous pourriez lui poser des questions un petit peu sur tout ça ? Non ? Ou plus ? Ou pas ?
Un secret familial, c'est-à-dire ?
Je sais pas. Lui demander pourquoi vous avez ce sentiment qu'elle ne s'est pas comportée pareil avec vous, avec votre frère.
Mais c'est-à-dire que je pense que les garçons avaient plus de valeur dans la famille que les filles.
Oui.
Elles avaient plus de valeur. Elle avait plus de... Elle a eu une difficulté relationnelle avec sa mère.
Ah, vous pensez qu'elle a reproduit quelque chose ?
Oui. Elle a reproduit quelque chose. Elle a reproduit... avec son père, ça passait bien. Avec son frère, ça passait bien. Et elle préférait les garçons aux filles. Mmh. Enfin, je crois que c'est ça.
Mais est-ce que vous avez des vraies conversations avec elle ?
Sur ça ?
Oui.
Elle ne veut pas trop en parler.
Ah.
Et je ne sais pas si un secret de famille, il y a simplement, je ne sais pas si ça n'est un secret, son grand-père était elle n'en a pas parlé beaucoup, ils ont caché ça, il était malade psychiatriquement. Alors si c'est un secret de famille, ça...
Bah, si vous le savez par définition, c'est que ce n'est pas un secret.
Et sinon, je ne sais pas. Peut-être ils ont caché des choses, je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas.
Est-ce que vous avez quand même réussi à vous faire des amis?
Oui, oui, oui.
Ah, voilà, vous avez une vie sociale.
Oui, oui, j'ai une vie sociale.
Non, ça, c'est important.
Oui, oui, j'ai une vie sociale. J'avais des difficultés relationnelles importantes, et là, j'en ai plus. J'en ai plus. J'ai des amis, j'ai un compagnon.
Voilà, tout ça, c'est bien, c'est positif, tout ça. Ça veut dire que si vous regardez un peu en arrière, vous avez fait du chemin.
Oui, beaucoup.
Ah, ben voilà.
Beaucoup de chemin. Mais sur ce point-là, là, c'est pour ça, c'est le point, le hic. Sur ce truc,
qu'est-ce que vous appelez ce truc?
La confiance en moi.
Mais c'est marrant parce que vous êtes en train de me dire l'inverse. En réalité, en ayant construit une vie sociale, en ayant un compagnon, ça veut dire que vous avez récupéré déjà la confiance pour arriver à ça.
Oui, mais me prendre en charge, c'est très dur. C'est maintenant.
Je ne suis pas complètement sûre que ce soit une question de confiance, se prendre en charge, quand vous dites me faire à manger, me préparer, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un fond un peu de dépression dans tout ça? Une espèce de fatigue?
Si.
Ah oui.
Si, si.
Ça ressemble plus à ça.
Oui, oui.
De côté, je m'assois sur le bord de la route et j'ai plus très envie, j'ai plus l'énergie, la force d'avancer. Et ça, c'est pas lié à la confiance, c'est vraiment lié à une fond de dépression. C'est un psychiatre qui vous suit ou un psychologue?
Une psychologue.
Une psychologue, donc elle n'est pas médecin.
Je suis un psychiatre aussi. J'ai un psychiatre, je suis un CMEP.
D'accord. Est-ce qu'il vous donne un traitement?
Oui.
Quel traitement?
Oui, oui, mais... Pardon?
Quel traitement?
Un des antidépresseurs.
Antidépresseurs, voilà, d'accord. Ok. Et oui.
Je suis suivie par un psychiatre, mais il me donne des médicaments. Et puis, la psychologue me suit pour l'hypnose.
D'accord, donc ça, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'effectivement, là, il ne faut pas tout mélanger. Ce dont vous me parlez, c'est pour moi pas complètement lié à la confiance, c'est vraiment lié à la dépression. Et ça, vous allez remonter la pente aussi, retrouver l'énergie pour aller mieux. Et en retrouvant cette énergie, j'allais dire, quelque part, la lumière va se rallumer et la confiance va se retrouver aussi sur votre chemin, surtout si vous travaillez dessus à côté. Tout est lié, tout est lié. Mais la confiance n'est pas une cause, c'est une conséquence, ce manque de confiance. C'est parce que vous êtes dans le fond du trou que, du coup, vous ne trouvez plus la lumière, quoi.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à faire les choses. Je suis obligée de me pousser.
Oui, c'est ça.
Et je me pousse toute la journée. Tout le temps, je me pousse.
Ça fait combien de temps que vous avez commencé les antidépresseurs?
Oh ben, ça va faire une dizaine d'années.
Quoi?
10 ans.
Ah. Et vous trouvez que c'est efficace ou pas?
Moi, je vais dire franchement, pas. Ben, c'est pas efficace.
Ben, il y a un problème là. Est-ce qu'on vous a pas changé? C'est très surprise de la prise en charge dans cette histoire-là.
Comment vous dire? Je suis. Ça fait 10 ans que je suis suivie pour le même. Et que j'ai beaucoup de mal à me. Ça fait 10 ans que j'ai beaucoup de mal à me pousser à faire les choses. Je me pousse tout le temps. Je me secoue tout le temps. Et ça dure. Et le psychiatre ne veut pas changer de médicament.
Et pourquoi?
Et moi, je ne sais pas. Je suis assez.
Ça me laisse perplexe quand même, parce que vous avez a priori quand même des signes de dépression. Vous me dites que vous êtes sous traitement depuis 10 ans. Quand ça d'avoir 10 ans d'antidépresseur, ça me paraît très long. Et quand ça ne fonctionne pas, on en change. Il y en a plein. Il y a plein de molécules différentes maintenant.
Mais lui, il n'a pas l'impression que ça ne fonctionne pas. Hein. Lui, il a l'impression que ça fonctionne. Hein.
Enfin, c'est quand même vous qui savez.
Hein. Ah ben, moi, quand j'y vais, je dis rien. C'est lui qui me dit que ça va. Hein. Et il veut pas arrêter. Moi, j'aimerais arrêter. Et lui, il ne veut pas. Je ne sais pas quoi faire. Hein.
C'est compliqué. Je peux difficilement gérer ça comme ça par téléphone. Ça serait peut-être intéressant d'avoir au moins une fois l'opinion d'un autre médecin, d'un autre psychiatre.
Ouais.
Juste une fois, aller faire un bilan quelque part. à la fois sur le plan des médicaments que vous prenez et sur le plan psychologique. Avoir l'éclairage de quelqu'un d'autre, ça, je pense que ça pourrait être intéressant dans votre cas.
D'accord.
Hein, Mireille, faites ça parce que il y a des petites choses, des petites zones d'ombre là qui me semblent un peu compliquées dans votre histoire.
Mais je suis, ça fait des années que je suis dépressive, c'est pas d'aujourd'hui que je suis dépressive, ça fait des années, et je vous dis, je me pousse tout le temps. Mais toute la journée, je me pousse.
10 ans de médicaments, 15 ans de dépression, si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui va pas au niveau de la prise en charge, là. Vraiment, faites ça. Allez demander l'avis d'un autre médecin psychiatre, s'il vous plaît.
D'accord.
Quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire, à qui vous allez la raconter, et qui peut-être pourra faire un point vraiment sur le plan médical et psychologique, ça me paraît utile à ce niveau-là. Parce que quand on n'avance pas à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
Ouais.
Hein? Vous faites ça, Mireille ?
Oui, je vous remercie.
Je vous embrasse.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21, 75 centimes, plus coût du SMS.
Et c'est l'appel de Katia que je prends maintenant. Bonsoir Katia.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Bon, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai pris la décision de vous appeler. Donc là, il s'agit plutôt d'une dépression du côté de mon beau-père, donc le père de mon mari. Mmh. Qui a à peu près 80 ans et je pense qu'il est en train de partir là. Donc il se fait, enfin dire, déjà 6 mois qu'il a commencé à se retirer dans un lieu un peu retiré, donc loin des aéroports, loin de l'un pour nous et loin de sa famille et de ses amis, je pense.
Mmh. Mais pourquoi et c'est un peu ça une... Il vous a dit pourquoi?
Non, il n'a pas dit ça. Non, je pense qu'il est en dépression. Ça fait, je veux dire, il est toujours, ça fait longtemps que je pense qu'il n'est pas bien. Et là, je pense que juste, pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Parce que je pense depuis un mois, on ne l'a pas vu venir, mais il est devenu, on va dire, il est en état de clochard. Là. Donc là, il était à l'hôpital il y a deux jours et on a été informé qu'il était en malnutrition. Je pense qu'il ne se nourrit plus, il boit, il fume, et il a des bleus partout. Apparemment, il y a encore une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine, apparemment, chez lui, là où il est. Là. Mais bon, donc nous, on se fait beaucoup de reproches. Bon, ma mari est actuellement avec lui. Mais lui, il dit qu'il veut, à tout prix, il ne veut pas bouger. Donc, il veut rester là-bas. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit accepter ça donc, ou est-ce qu'on ne peut pas... Je ne sais pas, le forcer, parce que moi, je serais beaucoup mieux si je savais autour de nous, ici, on pourrait aller le voir, parce que là, il est à presque 1000 km de chez nous.
À 1000, c'est ce que j'allais vous demander, 1000 km, c'est ingérable.
Oui, donc c'est pour ça que mon mari, il est allé, il y a 2 mois, il est allé la dernière fois, mais en fait, il le voit rarement. Il y a 2 mois, ça allait encore, il avait encore un peu une vie sociale, à peu près. Et là,
Quelle est son histoire à ce monsieur pour en être arrivé là?
Ah, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, il a perdu sa femme il y a 10 ans. Je pensais aussi qu'il a encore travaillé très tard. Et donc là, il n'a plus rien. Donc, je pense qu'il est vraiment en dépression, ce monsieur.
Il n'a plus rien dans quel sens? Matériellement?
Non.
Financièrement?
Ce n'est pas ça le problème. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, je pense qu'il il nous a toujours dit tout ce qu'il restait, c'était nous. Donc, on a 2 enfants, donc ses petits-enfants et nous. Mais nous, on sent loin. Et bon, enfin, il a quand même encore... 2 frères, une sœur, mais je pense que sa femme qui est partie il y a 10 ans, il n'a jamais digéré ça. Peut-être le fait aussi qu'il est devenu... il doit sentir qu'il est, plus bon à rien, je ne sais pas comment dire, mais avant il travaillait encore, donc il était auto-entrepreneur, donc je pense qu'il a...
Il se sent inutile peut-être maintenant.
Oui, après je n'ai jamais eu ce genre de discussion avec lui, hein. J'interprète ça comme ça de loin.
Quelle était la fréquence de vos visites avant? Ces 5 dernières années, par exemple.
J'avoue que moi, je ne le vois pas beaucoup. Hein. Je le vois 2 fois par an.
Et
mon mari, il va plus souvent. Il va le voir. Avant, on le voyait. Parfois, il venait même nous voir. Il s'arrêtait quand même ici. Donc, on voyait quand même, on va dire, non, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai deux fois par an? Non, on va dire quatre fois par an. Mais lui, peut-être, on passait quand même une semaine de vacances avec lui. Donc, lui, un peu plus.
Mais c'est quand même pas beaucoup pour un monsieur qui est seul.
Non.
Comment
non,
est-ce
non.
que vous avez su que ça n'allait plus, là, d'un coup?
Bah, on a été alerté parce qu'il y a encore une personne, il y a une personne qui vit là où elle est actuellement. Et qui est allé le voir parce que pour lui amener quelque chose, je pense qu'il lui a amené des choses à réchauffer au micro-ondes pour qu'il ait à manger encore. Et ce monsieur-là, il avait alerté le frère de mon mari. Mmh. Et donc mon mari aussi, il était quand même alerté parce que c'est pour ça qu'il était reparti il y a deux mois. Donc il y a un mois, mon beau-frère, il est allé aussi le voir. Mais en fait, il refuse d'aller voir un médecin. J'ai l'impression qu'il refuse de toute aide parce que mon mari, il avait essayé il y a deux mois, il avait déjà essayé de faire changer quelque chose parce qu'il était déjà pas bien. Mais il a dit non, 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 il veut retourner là-haut. C'est là où il était. C'était petit. Il voulait absolument pas que ça change ou rester dans un endroit un peu plus vivant.
Donc là il est où exactement? Je veux pas l'endroit, mais je veux dire, il est pas dans sa maison, si j'ai bien compris.
Pardon, il est dans un appartement. Dans un appartement qui lui appartient, on va dire l'appartement de famille de vacances.
Ah si, il est quand même resté dans son appartement.
De vacances, hein. Oui, oui, il est chez lui. Oui, il est pas dans la rue. Non, non,
Oui, voilà, c'est ça, lui. C'était ça ma question, c'était pas l'endroit. C'était
non, il est chez lui. Non, non,
il est quand même au chaud, il a un toit sur la tête.
Oui, il est au chaud. Il y a une femme de ménage qui passe deux fois par semaine, que mon mari a pu lui parler aujourd'hui, mais qui dit que ça fait un mois qu'il ne s'est pas lavé.
Ah, et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là entre lui et votre mari? Qu'est-ce qui se dit, ces deux-là?
Ça, je pense que c'est très difficile. Donc mon mari, il ne sait pas comment gérer ça. Donc je pense qu'il a essayé, de le menacer même. Je pense qu'il a dit, ma papa, si... Parce que, bon, quand il était allé à l'hôpital, ils ont dit qu'il devait mentionner son cas service social. Et donc, mon mari a dit, mais papa, ça va pas, il faut qu'on trouve une autre solution, tu peux pas rester tout seul. Parce qu'il voulait même pas, en fait, on avait essayé de voir quelqu'un qui fait à manger, il avait dit, non, non, je m'en trouve tout seul, je mange une pomme. Et là, donc, il a essayé de le menacer en lui disant que, bah là, tu vas être placé quelque part si tu continues comme ça.
Qu'est-ce qu'il dit, votre beau-père? Est-ce qu'il est cohérent dans ce qu'il dit?
Non, je pense qu'il a perdu un peu la tête. Ah. Donc je pense qu'il n'est plus capable de...
Voilà, c'est ça,
de parce prendre une décision. Une décision raisonnable. Donc il dit qu'il veut faire ça, mais pour moi... En plus, bon, il y a encore d'autres histoires, donc, parce qu'il est diabétique, donc je pense que... Il y a un vrai problème médical parce qu'il s'injecte n'importe quoi en insuline. Donc là, il était à l'hôpital parce qu'il était en hypoglycémie. Mais je pense aussi, suite au problème... Parce que mon mari l'a regardé, ça fait 10 jours qu'il ne mesure plus le taux de sucre et de sain dans son carnet. Avant, il le suivait encore, mais là, maintenant, il ne le suit plus et il s'injecte je ne sais pas quoi. Et je pense qu'il n'est pas cohérent. Non, je pense honnêtement qu'il est en train de perdre la tête ou il a déjà perdu la tête, je ne sais pas.
Il y a effectivement deux options dans une histoire comme ça. Soit c'est un monsieur qui n'a pas perdu la tête et qui n'a plus envie de vivre.
Oui,
et ça c'est un chemin différent, c'est encore autre chose. Soit c'est un monsieur qui a perdu la tête et qui a besoin d'urgence qu'on le prenne en charge. Et ce n'est pas la même démarche.
Oui. Et ça, c'est du mal. Comment faire? Comment savoir?
Il faut être sur place. Il n'y a que votre mari qui peut vous parler de ça.
Lui, il m'a dit que je pense qu'il y a deux mois, et je pensais encore qu'il avait à peu près sa tête. Et là, aujourd'hui, il m'a dit pour la première fois, je pense qu'il n'y a plus personne. Il m'a dit ça comme ça.
Ah. Est-ce qu'il a pu parler avec un médecin qui a rencontré son père?
Il est allé voir à l'hôpital, mais je pense qu'il a juste eu des infirmières.
Oui, donc il n'a pas eu d'échange avec quelqu'un qui... Il n'a pas un médecin référent, votre beau-père?
Non, parce que... Disons qu'il est allé voir un médecin il n'y a pas longtemps, mais c'était le médecin remplaçant, parce qu'en fait, mon beau-père, il n'allait plus voir le médecin. Et il y va, la dernière fois qu'il est allé, c'était un remplaçant que mon mari avait réussi à avoir un rendez-vous. Donc.
Ah, donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un médecin de famille.
Il y avait quelqu'un, faudrait peut-être que, voir s'il n'est pas parti à la retraite, mais... Bon, il a aussi un diabétologue, mais elle est partie aussi à la retraite. Mais bon, il est allé voir quand même. Je pense qu'il a un ami médecin. mais qui peut-être
qu'il faudrait. C'est pas très sérieux. Ça. Enfin, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, quoi.
Ah oui.
Il n'y a pas un référent, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de compte rendu.
Non, non, je pense pas.
Alors concrètement, votre mari, parce que j'imagine qu'il a aussi un travail et qu'il peut pas s'éterniser comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire là sur place?
Bah, il a dit que, parce que moi, il est là, donc il a dit que dans lundi, il doit absolument revenir, donc il va revenir demain en voiture. Il a dit qu'il allait, donc là, pour lui, l'urgence, c'est que de mettre en place quelque chose, au moins qu'il est physiquement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'amène à manger, qui le lave, je ne sais pas, qu'il y a une présence, qu'il mesure le sucre et tout ça, parce que ça n'a pas été fait, on n'était pas au courant.
Qu'il ait une assistante, qu'il ait une
ça, j'espère qu'il trouvera... Auxiliaire de vie, oui. Voilà, je pense qu'il faut ça. Et il m'a dit que il pense pas que son père changera d'avis et qu'il allait. Parce que moi j'espérais qu'on pourrait le faire venir à Paris. Pardon, on est à Paris donc pour être plus proche de lui, il allait le voir. Mais s'il le veut pas.
S'il le veut pas, c'est compliqué. Est-ce que vous lui avez vraiment proposé ça?
Ah oui, ça fait.
Oui.
On a même déjà presque loué un appartement là, parce que c'était prévu en fait, mais c'est prévu de notre côté. Et lui, il dit toujours, oui.
Et même pour ses petits-enfants, il a pas envie.
Je pense qu'il a plus aucune envie, en fait. Ouais, je pense que mon mari dit tout ce qui l'intéresse, c'est les cigarettes et l'alcool. Peut-être.
C'est une fuite. Une destruction et une fuite.
Oui, je pense. Et la seule chose positive que je vois encore, il a dit qu'il voudrait fêter Noël avec nous. Donc ça, c'était encore, je vais dire, le seul signe de vie que je vois.
Il a dit ça quand?
Aujourd'hui, hier.
Ah, d'accord. Donc ça pourrait être peut-être une occasion de d'aborder les choses en douceur tous ensemble. S'il accepte de remonter peut-être. De remonter avec votre fils ou de venir, je sais pas comment il viendrait chez vous, d'être en
non,
famille.
Non, il viendra pas ici, mais ça sera nous qui irons le voir. Mais je sais pas où à ce moment-là. Mais
oui, c'est ça. Et puis dans quel contexte le fait de fêter Noël avec un monsieur qui ne se lave plus, qui ne peut plus manger, qui.
Je sais pas.
C'est compliqué tout
ça. Je sais pas. Peut-être il rêve de ça. Je sais pas. Peut-être c'est un rêve. Je sais pas comment. Mais il viendra pas ici, ça je pense pas. Je veux dire, ça, il l'a jamais fait. Il est jamais venu ici pour Noël. C'est pas parce qu'on l'avait dit pas, hein, mais je sais pas.
Ah, c'est une situation.
Donc vous pensez il faut trouver déjà, est-ce qu'il est encore clair dans sa tête ou est-ce qu'il l'est pas? Parce que s'il est clair, donc on peut rien faire. C'est lui qui prend les décisions, c'est ça?
C'est un peu ça. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vraiment, en toute connaissance de cause, n'a plus envie, après il faut essayer de l'aider, bien sûr. Mais c'est différent. La démarche n'est pas la même avec quelqu'un qui a vraiment perdu la tête. Il y avait quelqu'un qui a juste plus envie de vivre parce qu'il trouve qu'il est au bout du chemin. C'est pas la même manière d'aborder les choses. S'il a vraiment perdu la tête, il faut vraiment d'urgence le faire voir par un psychiatre, quoi.
Je sais pas s'il a. Avant, il n'avait pas perdu la tête. Hein. Je pense qu'avec ses comas hypoglycémiques, parce que c'est ça qu'il fait.
C'est très possible.
Ça, je pense, que ça lui touche aussi à un moment donné la tête, hein, parce que je sais pas, là, il était à l'hôpital encore. Il avait le bras qui était paralysé, il ne pouvait plus parler parce qu'il est tellement en hypoglycémie que...
Vous avez raison, c'est fort possible, mais là, pour le coup, c'est vraiment un médecin qu'il faut. Quoi. Il faut un avis médical là-dessus. Un avis médical, et pour ça, un psychiatre. Moi, je pense que votre fils pourrait prendre un rendez-vous avec un psychiatre là, tout de
même. Et l'accompagner là-bas.
Et l'accompagner déjà pour ça, faire un premier bilan.
Ouais,
et je pense qu'un psychiatre sera même de vous dire attention en off, bien sûr, après, pas devant lui. Voilà ce que j'en pense, voilà ce qu'il en est. Quoi.
Ok.
Non, ça me paraît le plus urgent, c'est ça maintenant.
D'accord.
Savoir sur quel chemin on est. Est-ce qu'on est vraiment sur un chemin d'une tristesse et d'une fin de vie voulue, ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de médical qui est quelque chose qui ne va plus, quoi, qui déraille? Parce que la prise en charge ne sera pas la même derrière. Donc si votre mari peut l'accompagner rapidement chez un psychiatre, ça me paraît une très bonne chose.
D'accord, merci.
Et puis, après, c'est, vous le savez, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et essayer de l'entourer au mieux en fonction de ce qui va se passer derrière, quoi. Mais si c'est un problème psychiatrique, il faut qu'il y ait une vraie prise en charge, vraiment.
Moi, je pense, avant, je pensais, parce que j'avais déjà vu que ça allait de moins en moins bien, je pensais que c'était vraiment qu'il ne voulait plus vivre, vraiment. Qu'il se laissait partir. Et là, à distance, c'est très, très difficile. Très, très difficile. La seule chose qu'on fait, c'est tous les jours, on l'appelle avec par une vidéo pour lui parler 5 minutes pour qu'il voie les enfants.
Non, c'est pour ça que comme votre mari est sur place, profitez-en pour vraiment qu'il aille voir un médecin. Un psychiatre.
Un psychiatre, vous pensez.
Tout à fait.
Okay,
Katia, pardonnez-moi, l'émission se termine.
Je vous remercie.
N'hésitez pas à me rappeler dans quelques temps si vous voulez me donner des nouvelles. Hein,
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse.
Une bonne nuit. Au revoir.
Merci à vous aussi. Merci à vous tous qui êtes venus prendre la parole ce soir. Notre libre antenne se termine. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain soir à partir de 23h pour de nouveaux échanges et de nouvelles confidences. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne nuit et je vous quitte avec cette citation. Quand on ose, on se trompe souvent, c'est vrai, mais quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Bonne nuit et à demain. Une heure du matin sur Europe 1, c'est l'heure des programmes de la nuit.